Histoire de la réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 10. Fermentation politique, Luther contre la révolte, Thomas Münzer, agitation, la forêt noire, les 12 articles, avis de Luther, Elfenstein, marche des paysans, marche de l'armée impériale, défaite des paysans, cruauté des princes. Une fermentation politique bien différente de celle que l'Évangile opère travaillait depuis longtemps l'Empire. Accablé sous l'oppression civile et ecclésiastique, attaché en plusieurs pays aux terres seigneuriales et vendu avec elles, le peuple menaçait de se soulever avec fureur et de briser enfin ses chaînes. Cette agitation s'était manifestée bien avant la réforme, par plusieurs symptômes, et déjà alors l'élément religieux s'était uni à l'élément politique. Il était impossible, au XVIe siècle, de séparer ces deux principes, si infiniment associés dans la vie des nations. En Hollande, à la fin du siècle précédent, les paysans s'étaient soulevés, en mettant sur leurs étendards, en guise d'armoirie, du pain et du fromage, les deux grands biens de ces pauvres gens. L'alliance des souliers avait éclaté dans le voisinage de Spire en 1503. En 1513, elle s'était renouvelée en Brisgau, encouragée par les prêtres. Le Württemberg avait vu en 1514 la Ligue du pauvre Conrad, dont le but était de soutenir par la révolte le droit de Dieu. La Carinthie et la Hongrie avaient été en 1515 le théâtre de terribles agitations. Ces séditions avaient été étouffées par des torrents de sang. Mais aucun soulagement n'avait été accordé au peuple. Une réforme politique n'était donc pas moins nécessaire qu'une réforme religieuse. Le peuple y avait droit, mais, il faut le dire, il n'était pas mûr pour en jouir. Depuis que la réformation avait commencé, ces agitations populaires ne s'étaient pas renouvelées. Les esprits avaient été absorbés par d'autres pensées. Luther, dont l'œil perçant avait discerné l'état de son peuple, lui avait adressé, déjà du haut de la Wartburg, de graves exhortations pour contenir ainsi les esprits agités. La révolte, avait-il dit, ne produit point l'amélioration que l'on désire, et Dieu la condamne. Qu'est-ce que se révolter, si ce n'est se venger soi-même ? Le diable s'efforce d'exciter à la révolte ceux qui embrassent l'Évangile, afin de le couvrir d'opprobre. Mais ceux qui ont bien compris ma doctrine ne se révoltent pas. Tout faisait craindre que l'agitation populaire ne pût être plus longtemps contenue. Le gouvernement que Frédéric de Saxe avait eu tant de peine à former et qui avait la confiance de la nation était dissous. L'empereur, dont l'énergie eût peut-être remplacé l'influence de cette administration nationale, était absent. Les princes, dont l'union avait toujours fait la force de l'Allemagne, étaient divisés. Et les nouvelles déclarations de Charles Quint contre Luther, en enlevant toute espérance d'un futur accord, dépouillaient le réformateur d'une partie de l'autorité morale par laquelle, en 1522, il avait réussi à calmer l'orage. Les principales digues qui jusqu'à cette heure avaient retenu le torrent étaient rompues. Rien ne pouvait plus contenir sa furie. Ce ne fut pas le mouvement religieux qui enfanta l'agitation politique, mais en plusieurs lieux, il se laissa entraîner par ces flots tumultueux. Peut-être même faut-il aller plus loin. Peut-être faut-il reconnaître que le mouvement imprimé au peuple par la réforme donna une force nouvelle au mécontentement qui fermentait dans la nation. La violence des écrits de Luther, l'intrépidité de ses actions et de ses paroles, les dures vérités qu'il disait, non seulement au pape et aux prélats, mais aussi aux princes eux-mêmes, tout cela devait contribuer à enflammer des esprits déjà en effervescence. Aussi Erasme ne manqua-t-il pas de lui dire, nous recueillons maintenant les fruits que tu as semés. » D'ailleurs, les réjouissantes vérités de l'Évangile, mises enfin au grand jour, remuaient tous les cœurs et les remplissaient d'attente et d'espoir. Mais beaucoup d'âmes irrégénérées n'étaient point préparées par la repentance à la foi et à la liberté chrétienne. Elles voulaient bien rejeter le joug du pape, mais elles ne voulaient pas accepter le joug de Christ. Aussi, quand des princes dévoués à Rome cherchaient dans leur colère à étouffer la réformation, les véritables chrétiens, il est vrai, savaient supporter avec patience ces persécutions cruelles. Mais la multitude bouillonnait, éclatait, et voyant ses désirs comprimés d'un côté, elle leur procurait une issue de l'autre. « Pourquoi, disait-on, tandis que l'Église appelle tous les hommes à une noble liberté, la servitude se perpétuerait-elle dans l'État ? Pourquoi, tandis que l'Évangile ne parle que de douceur, les gouvernements ne régneraient-ils que par la force ?» Malheureusement, alors que la réforme religieuse était reçue, avec une joie égale, et des princes, et du peuple, la réforme politique, au contraire, avait contre elle la partie la plus puissante de la nation. Et pendant que celle-là avait l'Évangile pour règle et pour point d'appui, celle-ci n'eut bientôt d'autres principes que la violence et l'arbitraire. Aussi, tandis que l'une fut contenue dans les limites de la vérité, l'autre dépassa rapidement et comme un torrent fougueux toutes celles de la justice. Mais vouloir méconnaître une influence indirecte de la Réformation sur les troubles qui éclatèrent dans l'Empire me semblerait faire preuve de partialité. Un feu avait été allumé en Allemagne par les discussions religieuses. Il était impossible qu'il ne s'en échappât point quelques étincelles propres à enflammer les passions du peuple. Les prétentions de quelques fanatiques à des inspirations célestes vinrent augmenter le mal. Tandis que la Réformation en avait sans cesse appelé de la prétendue autorité de l'Église à l'autorité réelle de l'Écriture sainte, ces enthousiastes rejetèrent non seulement l'autorité de l'Église, mais encore celle de l'Écriture. Ils ne parlèrent plus que d'une parole intérieure, d'une révélation de Dieu au-dedans. Et méconnaissant la corruption naturelle de leur cœur, ils se livrèrent à toute l'ivresse de l'orgueil spirituel et s'imaginèrent être des saints. « L'Écriture sainte ne fut pour eux qu'une lettre morte, » dit Luther, « et tous se mirent à crier « Esprit, Esprit !»« Mais certes, je ne les suivrai pas là où leur esprit les mène. Que Dieu, dans sa miséricorde, me préserve d'une église où il n'y a que des saints !» Je veux demeurer là où il y a des humbles, des faibles, des malades qui connaissent et sentent leurs péchés et qui soupirent et crient sans cesse à Dieu du fond de leur cœur pour obtenir sa consolation et son secours. Ces paroles de Luther ont une grande profondeur et signalent le changement qui s'opérait dans ses vues sur la nature de l'Église. Elles montrent en même temps combien les principes religieux des révoltés étaient en opposition avec ceux de la Réforme. Le plus distingué de ces enthousiastes fut Thomas Münzer. Il n'était pas sans talent, avait lu la Bible, avait du zèle, eût pu faire du bien s'il avait su recueillir ses esprits agités et retrouver la paix du cœur. Mais ne se connaissant pas lui-même et dépourvu d'une vraie humilité, il était possédé du désir de réformer le monde. Et oubliait, comme tous les enthousiastes, que c'était par lui-même que la réforme devait commencer. Des écrits mystiques qu'il avait lus dans sa jeunesse avaient donné une fausse direction à son esprit. Il parut d'abord à Zwickau, quitta Wittenberg après le retour de Luther, mécontent du rôle inférieur qu'il y jouait, et devint pasteur de la petite ville d'Hallstatt, en Thuringe. Il ne put longtemps s'y tenir tranquille et accusa les réformateurs de fonder, par leur attachement à la lettre, un nouveau papisme et de former des églises qui n'étaient point saintes et pures. « Luther, disait-il, a délivré les consciences du joug du pape. mais il les a laissés dans une liberté charnelle, et ne les a point fait avancer en esprit vers Dieu. Ils se regardaient comme appelés de Dieu à porter remède à un si grand mal. Les révélations de l'esprit étaient selon lui le moyen par lequel sa réforme devait s'accomplir. « Celui qui possède cet esprit, dit-il, a la vraie foi, quand même il ne verrait pas l'Écriture sainte de toute sa vie. Les païens et les Turcs sont plus propres à le recevoir que bien des chrétiens qui nous nomment enthousiastes. C'était Luther qui l'avait en vue par ces mots. « Pour recevoir cet esprit, il faut châtier son corps, disait-il encore, porter de mauvais habits, laisser croître sa barbe, avoir l'air triste, garder le silence, aller dans des lieux retirés, et supplier Dieu de nous donner un signe de sa faveur. Alors Dieu viendra et parlera avec nous, comme autrefois avec Abraham, Isaac et Jacob. S'il ne le faisait pas, il ne mériterait pas que l'homme s'occupât de lui. J'ai reçu de Dieu la charge d'assembler ses élus en une alliance sainte et éternelle. » L'agitation et la fermentation qui travaillaient les esprits ne favorisaient que trop la propagation de ces idées enthousiastes. L'homme aime le merveilleux et ce qui flatte son orgueil. Münzer, ayant entraîné dans ses vues une partie de son troupeau, abolit le chant ecclésiastique et toutes les cérémonies. Il soutint qu'obéir à des princes, dépourvus de raison, c'était servir à la fois Dieu et Bélial. Puis, marchant à la tête de ses paroissiens, sur une chapelle qui se trouvait près d'Alstadt, et où l'on allait de tous côtés en pèlerinage, il la renversa. Obligé, après cet exploit, de quitter le pays, il erra en Allemagne, et vint jusqu'en Suisse, emportant avec lui, et communiquant à tous ceux qui voulaient l'entendre, le plan d'une révolution universelle. Partout aussi il trouva les esprits préparés, il jetait de la poudre sur des charbons ardents, et bientôt l'explosion se fit avec violence. Luther, qui avait repoussé les entreprises guerrières de Sickingen, ne pouvait se laisser entraîner par les mouvements tumultueux des paysans. L'Évangile le gardait, heureusement, pour l'ordre social. Car que fût-il arrivé s'il eût porté dans leur camp sa vaste influence? Il maintint toujours fermement la distinction entre le spirituel et le séculier. Il ne cessa de répéter que c'étaient les âmes immortelles que Christ affranchissait par sa parole. Et si, d'une main, il attaqua l'autorité de l'Église, il soutint de l'autre avec la même force la puissance des princes. « Un chrétien, disait-il, doit endurer 100 fois la mort plutôt que de tremper le moins du monde dans la révolte des paysans. » Il écrivit à l'électeur, « Ce qui me cause une joie particulière, c'est que ces enthousiastes se vantent eux-mêmes, à qui veut les entendre, qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est l'esprit qui les pousse, disent-ils. Et moi je réponds, c'est un mauvais esprit que celui qui ne porte d'autres fruits que le pillage des couvents et des églises. Les plus grands brigands de la terre en sauraient faire autant. » En même temps, Luther, qui voulait pour les autres la liberté qu'il réclamait pour lui-même, détourna le prince de toute mesure de rigueur. « Laissez-les prêcher ce qu'ils veulent et contre qui bon leur semble, dit-il, car il faut que ce soit la parole de Dieu qui marche elle-même en avant et qui leur livre bataille. Si leur esprit est le véritable, il ne craindra pas nos rigueurs. Si le nôtre est le véritable, il ne craindra pas leur violence. Laissons les esprits lutter entre eux et se combattre. Peut-être quelques-uns seront-ils séduits. Il n'y a pas de bataille sans blessure. Mais celui qui combat fidèlement sera couronné. Néanmoins, s'ils veulent prendre l'épée, que vos altesses le leur défendent et leur ordonnent de quitter le pays. » La révolte commença dans les contrées de la forêt noire et des sources du Danube, si souvent agitées par des troubles populaires. Le 19 juillet 1524, des paysans turgoviens se soulevèrent contre l'abbé de Reichenau, qui ne voulait pas leur accorder un prédicateur évangélique. Bientôt, des milliers se réunirent autour de la petite ville de Tengen pour délivrer un ecclésiastique qu'on retenait prisonnier. La révolte s'étendit avec une inconcevable rapidité depuis la Souabe jusque dans les contrées du Rhin, de la Franconie, de la Thuringe et de la Saxe. Tous ces pays étaient soulevés en janvier 1525. Vers la fin de ce mois, les paysans publièrent une déclaration en 12 articles, par laquelle ils demandaient la liberté de se choisir eux-mêmes leur pasteur, l'abolition de la petite dîme, de la servitude, des droits sur les héritages, la liberté de la chasse, de la pêche, de la coupe des bois, etc. Chaque demande était appuyée par un passage. « Si nous nous trompons, disait-il en terminant, que Luther nous corrige par l'écriture. » On demanda leur avis aux théologiens de Wittenberg. Mélanchthon et Luther donnèrent le leur, chacun séparément. On y reconnaît la différence de leur caractère. Mélanchthon, pour lequel toute espèce de trouble était un grand crime, sort des limites de sa douceur ordinaire et ne peut exprimer assez fortement son indignation. Les paysans sont des criminels contre lesquels il invoque toutes les lois divines et humaines. Si des négociations bénévoles sont inutiles, les magistrats doivent les poursuivre comme des brigands et des assassins. Cependant, ajoute-t-il, et il faut bien qu'un trait du moins nous rappelle Mélanchthon, qu'on ait pitié des orphelins dans l'application de la peine de mort. Luther pensait sur la révolte comme Mélanchthon, mais il y avait en lui un cœur qui battait pour les misères du peuple. Il se montra en cette occasion d'une haute impartialité, et il dit franchement la vérité aux deux parties. Il s'adressa d'abord aux princes, et plus particulièrement aux évêques. « C'est vous, leur dit-il, qui êtes cause de la révolte. Ce sont vos déclamations contre l'Évangile. C'est votre oppression coupable des petits de l'Église qui ont porté le peuple au désespoir. Ce ne sont pas des paysans, cher Seigneur, qui se soulèvent contre vous. C'est Dieu lui-même qui veut s'opposer à votre fureur. Les paysans ne sont que les instruments qu'il emploie pour vous humilier. Ne pensez pas à échapper à la punition qu'il vous prépare. Quand même vous parviendriez à détruire tous ces paysans, Dieu pourrait, des pierres même, en faire naître de nouveaux, pour châtier votre orgueil. Si je voulais me venger, je pourrais rire sous cap, regarder faire les paysans, ou même augmenter leur colère. Mais Dieu m'en garde. Cher Seigneur, pour l'amour de Dieu, revenez de votre indignation. Traitez avec raison ce pauvre peuple, comme des gens ivres et égarés. Apaisez ses troubles par la douceur, de peur qu'il n'en sorte un incendie qui embrase toute l'Allemagne. Parmi leurs 12 articles, il y en a qui sont justes et équitables. » Cet exorde était propre à concilier à Luther la confiance des paysans et à leur faire écouter avec patience les vérités qu'il avait à leur dire. Il leur représenta qu'une grande partie de leurs demandes était, il est vrai, fondée, mais que se révolter c'était agir en païen, que le devoir des chrétiens était la patience et non la guerre, que s'ils continuaient à se lever au nom de l'Évangile contre l'Évangile même, ils les regarderaient comme des ennemis plus dangereux que le pape. « Le pape et l'empereur, continuait-il, se sont unis contre moi. Mais plus le pape et l'empereur ont empêté, plus l'Évangile a fait de progrès. Pourquoi cela ? C'est que je n'ai jamais ni tiré l'épée, ni demandé vengeance. C'est que je n'ai eu recours ni au tumulte, ni à la révolte. J'ai remis tout à Dieu, et je me suis attendu à sa main puissante. Ce n'est ni avec le glaive, ni avec l'arquebuse que les chrétiens combattent, mais avec les souffrances et avec la croix. Christ, leur capitaine, n'a pas manié l'épée. Il a été suspendu au bois. mais en vain Luther faisait-il entendre des paroles si chrétiennes. Le peuple était trop exalté par les discours fanatiques des chefs de la révolte pour prêter, comme autrefois, l'oreille aux réformateurs. « Il fait l'hypocrite, disait-on, il flatte les princes, il a déclaré la guerre au pape et il veut que nous nous soumettions à nos oppresseurs. » La révolte, au lieu de s'apaiser, devint donc plus formidable. À Weinsberg, le comte Louis de Helfenstein et les 70 hommes qu'il commandait furent condamnés à mort. Une partie des paysans tenaient leurs piques en avant, fermes et immobiles. D'autres chassaient et acculaient contre cette forêt de fer le comte et ses soldats. La femme du malheureux Helfenstein, fille naturelle de l'empereur Maximilien, tenant en ses bras un enfant de 2 ans, demandait à genoux, avec de grands cris, la vie de son époux, et s'efforçait en vain d'arrêter cette marche meurtrière. Un jeune garçon, qui avait été au service du comte et qui s'était joint aux rebelles, gambadait près de lui et jouait sur un fifre la marche de la mort, comme s'il eût conduit à la danse les victimes. Tous périrent. L'enfant fut blessé dans les bras de sa mère. Elle-même fut jetée sur un char de fumier et conduite ainsi à Heilbronn. À l'ouïe de ces cruautés, un cri d'horreur se fit entendre parmi les amis de la Réformation, et un terrible combat se livra dans l'âme sensible de Luther. D'un côté, les paysans, se moquant de ces représentations, prétendaient à des révélations du ciel, faisaient un usage impie des menaces de l'Ancien Testament, proclamaient l'égalité des conditions et la communauté des biens, défendaient leur cause avec le fer et le feu, et se livraient à des exécutions barbares. De l'autre, les ennemis de la Réforme demandaient, avec un malin sourire, aux réformateurs s'ils ne savaient donc pas qu'il était plus facile d'allumer un incendie que de l'éteindre. Indignés de ces excès, épouvantés de la pensée qu'ils pourraient arrêter les progrès de l'Évangile, Luther n'hésita plus. Il ne ménagea rien. Il se déchaîna contre les rebelles avec toute la force de son caractère, et dépassa peut-être les justes bornes dans lesquelles il eût dû se contenir. « Les paysans, dit-il, commettent 3 horribles péchés envers Dieu et envers les hommes, et méritent ainsi la mort du corps et celle de l'âme. D'abord, ils se révoltent contre leurs magistrats, auxquels ils ont juré fidélité. Ensuite, ils volent, ils pillent les couvents et les châteaux. Enfin, ils couvrent ces crimes du manteau de l'Évangile. Si vous ne mettez à mort un chien enragé, vous périrez, et tout le pays avec vous. Celui qui sera tué en combattant pour les magistrats sera un véritable martyr s'il a combattu avec une bonne conscience. » Luther dépeint ensuite, avec énergie, la coupable violence des paysans qui contraignent des hommes simples et paisibles à entrer dans leur alliance, et les entraînent ainsi dans la même condamnation. Puis il ajoute : « C'est pourquoi, cher Seigneur, aidez, sauvez, délivrez, ayez pitié de ce pauvre peuple. Frappe, transperce et tue qui peut. Si tu meurs, tu ne pouvais avoir une fin plus heureuse, car tu meurs au service de Dieu et pour sauver ton prochain de l'enfer. » Ni la douceur, ni la force ne purent arrêter le torrent populaire. Ce n'était plus pour le service divin qu'on sonnait la cloche des églises. Dès qu'au sein des campagnes on entendait retentir ces sons graves et prolongés, c'était le tocsin, et tous couraient aux armes. Le peuple de la forêt noire s'était réuni autour de Jean Müller de Bulgenbach, d'un aspect imposant, couvert d'un manteau rouge, un bonnet rouge sur la tête, ce chef s'avança fièrement de village en village, suivi de ses paysans. Derrière lui, sur un char orné de rubans et de feuillages, s'élevait le drapeau tricolore, noir, rouge et blanc, signal de la révolte. Un héros, bariolé de même, lisait les 12 articles et invitait le peuple à se joindre à l'émeute. Quiconque s'y refusait était exclu de la communauté. Bientôt, cette marche, d'abord pacifique, devint plus inquiétante. « Il faut, s'écria-t-on, forcer les seigneurs à se soumettre à l'alliance. » Et pour les y amener, on pille les greniers à blé, on vide les caves, on pêche les étangs seigneuriaux, on réduit en ruine les châteaux des nobles qui résistent et on brûle les couvents. La résistance a enflammé la colère de ces hommes grossiers. L'égalité ne leur suffit plus, ils veulent du sang, et ils jurent de faire mordre la poussière à quiconque porte un éperon au pied. À l'approche des paysans, les villes hors d'état de résister ouvrent leurs portes et s'unissent à eux. Dans tous les lieux où ils entrent, les images sont déchirées, les crucifix brisés, des femmes armées parcourent les rues et menacent les moines. Sont-ils battus en un endroit ? Ils se rassemblent en un autre et bravent les forces les plus redoutables. Un comité de paysans s'établit à Heilbronn. Les comtes de Loewenstein sont pris. On les revêt d'une blouse, on leur met un bâton blanc à la main et on les contraint à jurer les 12 articles. « Frère Georges et toi, frère Albert, dit un chaudronnier Thoringen au comte de Hohenlohe qui s'était rendu au camp, jurez-nous de vous conduire en frères, car vous aussi, vous êtes maintenant des paysans, vous n'êtes plus seigneurs. » L'égalité des conditions, ce rêve de tous les démocrates, est établi dans l'aristocratique Allemagne. Un grand nombre de nobles, les uns par crainte, les autres par ambition, se joignirent alors aux révoltés. Le fameux Götz de Berlinschingen, voyant les siens lui refuser obéissance, voulut s'enfuir vers l'électeur de Saxe. Mais sa femme, qui se trouvait en couche, cacha, pour le retenir près d'elle, la réponse de l'électeur. Götz, serré de près, fut obligé de se mettre à la tête de l'armée des rebelles. Le 7 mai, les paysans entrèrent dans Wurtzbourg, où les bourgeois les reçurent avec acclamation. Les forces des princes et des chevaliers de la Souabe et de la Franconie, qui étaient réunis dans cette cité, l'évacuèrent et se retirèrent avec précipitation dans la citadelle, dernier boulevard de la noblesse. Mais déjà le mouvement s'est étendu à d'autres parties de l'Allemagne. Spire, le Palatinat, l'Alsace, la Hesse ont reconnu les 12 articles, et les paysans menacent la Bavière, la Westphalie, le Tyrol, la Saxe et la Lorraine. Le margrave de Bade, ayant repoussé les articles, est forcé de s'enfuir. Le coadjuteur de Fulde y accède en riant. Les petites villes disent qu'elles n'ont pas de lance à opposer aux révoltés. Mayence, Trèves, Francfort obtiennent les libertés qu'elles réclament. Une immense révolution se prépare dans tout l'Empire. Les droits ecclésiastiques et séculiers, qui oppriment les paysans, seront supprimés. On sécularisera les biens du clergé pour dédommager les princes et pourvoir aux besoins de l'Empire. Les impôts seront abolis, sauf un tribut qui se payera tous les 10 ans. La puissance impériale, reconnue par le Nouveau Testament, subsistera seule. Tous les autres princes cesseront de régner. 64 tribunaux libres seront établis, et des hommes de toutes les classes y siégeront. Tous les États retourneront à leur destination primitive. Les ecclésiastiques ne seront plus que pasteurs des églises. Les princes et les chevaliers ne seront que défenseurs des faibles. L'unité des poids et des mesures sera introduite et l'on ne frappera dans tout l'Empire qu'une seule monnaie. Cependant, les princes étaient sortis de leur première stupeur et Georges de Truxès, général en chef de l'armée impériale, s'avançait du côté du lac de Constance. Il bat les paysans, le 2 mai, à Böblingen, marche sur la ville de Wensberg, où le malheureux comte de Helfenstein avait péri. La brûle, la rase, et ordonne que les ruines en soient respectées comme un éternel monument de la trahison de ses habitants. À Fürfeld, il se réunit à l'électeur palatin et à l'électeur de Trèves, et tous ensemble s'avancent vers la Franconie. La Frauenburg, citadelle de Wurtzbourg, tenait encore pour les princes, et la grande armée des paysans était toujours réunie sous ses murs. En apprenant la marche de Truxès, ils se décidèrent à l'assaut, et le 15 mai, à 9 heures du soir, les trompettes sonnent, le drapeau tricolore se déploie, et les paysans se précipitent à l'attaque en poussant d'horribles cris. Sébastien de Rottenhart, l'un des plus chauds partisans de la Réforme, commandait dans le château. Il avait mis la défense sur un pied redoutable, et ayant exhorté les soldats à repousser l'assaut avec courage, tous avaient juré de le faire, en élevant 3 doigts vers le ciel. Le combat le plus terrible s'engage alors. À l'énergie et au désespoir des paysans, la forteresse répond de ses murs et de ses tours par des pétards, des pluies de soufre et de poix bouillantes, et les décharges de son artillerie. Les paysans, frappés ainsi par leurs ennemis invisibles, sont un moment surpris, mais bientôt leur rage ne fait que s'accroître. La nuit s'avance, la lutte se prolonge. La forteresse, éclairée par les milliers de feux de la bataille, semble dans les ténèbres un géant superbe qui, vomissant des flammes, lutte seul au milieu de foudroyantes détonations pour le salut de l'Empire contre la farouche valeur des hordes furieuses. À 2 heures après minuit, les paysans, dont tous les efforts ont échoué, se retirent enfin. Ils voulurent entrer en négociation, soit avec la garnison, soit avec Truxès, qui s'avançait à la tête de son armée. Mais c'était sortir de leur rôle. La violence et la victoire pouvaient seules les sauver. Après quelques irrésolutions, ils se décident à marcher à la rencontre de l'armée impériale. Mais l'artillerie et la cavalerie firent des ravages affreux dans leurs rangs. À Königshofen, puis à Engenstadt, ces malheureux furent complètement défaits. Alors, abusant de leur victoire, les princes, les nobles et les évêques déployèrent la cruauté la plus inouïe. Les prisonniers furent pendus le long des chemins. L'évêque de Wurtzbourg, qui s'était enfui, revint, parcourut avec des bourreaux tout son diocèse et l'arrosa à la fois du sang des rebelles et du sang des tranquilles amis de la parole de Dieu. Götz de Berlin-Schingen fut condamné à une prison perpétuelle. Le margrave Casimir d'Anspach fit arracher les yeux à 85 paysans rebelles qui avaient juré que leurs yeux ne reverraient jamais ce prince. Il jeta dans le monde cette troupe d'aveugles qui s'en allèrent çà et là, se tenant par la main, tâtonnant, chancelant et mendiant leur pauvre existence. Le malheureux garçon qui avait joué sur son fifre la marche de mort de Helfenstein fut attaché à un pieu par une chaîne. On alluma un feu tout autour de lui, et les chevaliers assistèrent en riant à ces horribles contorsions. Le culte fut partout rétabli sous son ancienne forme. Les pays les plus florissants et les plus peuplés de l'Empire ne présentèrent plus à ceux qui les parcouraient que des monceaux de cadavres et des ruines fumantes. 50 000 hommes avaient péri, et le peuple perdit presque partout le peu de liberté dont il avait joui jusqu'alors. Telle fut, dans le sud de l'Allemagne, l'horrible fin de cette révolte.